VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge. Burkina Faso, Issac Zida a été libéré selon son directeur de cabinet, Job Ouédraogo, que nous avons joint ce matin.
C'est autour de 3h30, 4h du matin que j'ai été informé de sa libération effective. J'ai pu lui parler au téléphone par personne interposée et je confirme qu'il est bel et bien libre.
Est-ce qu'il semblait aller bien, selon vous?
Je l'ai parlé, il allait bien. J'avais de toute façon des informations qu'il allait bien parce que j'avais de ces informations régulièrement, au moins 2 à 3 fois par jour. Donc je savais qu'il allait bien. Ce que je ne savais pas, c'était peut-être à partir de l'après-midi d'hier. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était autour de 13h, 14h. Et après cela, nous avons été informés sur les chaînes de radio par le communiqué qu'a lu le général Tindiré qu'il allait être libéré. Mais nous avons attendu jusqu'à 0h, ce n'était pas le cas. Et c'est autour de 4h du matin que j'ai été informé qu'il est libéré, qu'il avait rejoint sa résidence.
Pourquoi, selon vous, n'a-t-il pas été libéré avant? Parce qu'en effet, le général avait annoncé il y a plusieurs heures de cela sa libération. Et étant donné sa situation, l'on peut se poser la question, pourquoi pas plus tôt?
Là, vraiment, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les détails de sa libération. Je ne sais pas non plus qu'est-ce qui a motivé qu'il ait été retenu aussi longtemps après la déclaration.
Et où était-il détenu exactement?
Il était détenu à l'intérieur de la présidence. Enfin, là, vous savez, le domaine de la présidence est assez vaste. Il était retenu dans une des villas au niveau de la présidence, à Potia.
Est-ce que vous avez du nouveau, justement, sur cette réunion des hauts gradés qui s'est tenue quasiment toute la nuit à la présidence?
Je n'ai pas de nouveau. Comme je ne suis pas de la hiérarchie militaire, je n'ai aucune information pour le moment.
Ce matin, comment se porte Ouagadougou? Est-ce que beaucoup de gens sont éveillés comme vous?
Je ne suis pas sorti de chez moi, mais je suppose que beaucoup sont éveillés parce qu'il faut se dire que la libération du Premier ministre était attendue de tous et c'était une inquiétude pour chacun. Et dès lors que petit à petit les uns et les autres vont apprendre qu'il est libéré, c'est sûr que ce sera un soulagement et une joie pour la majorité des Burkinabés. Je pense que la crise quand même tire à sa fin et c'est le lieu de dire merci à tout le peuple burkinabé, aux amis du Burkina Faso, aux forces de défense et de la sécurité et à tous ceux qui se sont mobilisés pour que la crise prenne fin.
C'était Job Ouédraogo, directeur de cabinet du Premier ministre Issac Zida. Il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja qui va s'ouvrir ce mardi pour discuter de la crise au Burkina Faso. L'armée burkinabé a désarmé les putschistes du RSP. Les hauts gradés ont discuté du sort du général Diendéré cette nuit au palais présidentiel. Des colonnes de l'armée régulière sont arrivées hier en début de soirée aux portes de la capitale. Quelques heures avant, le haut commandement militaire avait prévenu que des unités de province convergeaient vers Ouagadougou. Dans son message hier, le chef d'état-major général des armées, Pingréno Mazagré, a invité les membres du RSP à déposer les armes et à se mettre sous ses ordres. Souhaitant éviter toute confrontation avec les auteurs du putsch, le général Zagré a ordonné à tout chef d'état-major de prendre toutes les dispositions pour éviter tout affrontement et réserver un bon accueil aux frères d'armes du respect, sans aucune distinction selon ses termes. Le chef de l'armée a par ailleurs demandé aux populations du Burkina Faso de rester sereines et de faire confiance aux forces armées nationales qui réaffirment leur engagement sans faille à préserver l'unité nationale, a-t-il déclaré. Sitôt dit, sitôt fait, hier, l'armée a ainsi repris le contrôle de Ouagadougou pour désarmer les membres du RSP. Alors ce développement intervient alors qu'un projet de sortie de crise avait été présenté dimanche par la médiation ouest-africaine. Il devait être examiné lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce mardi. Ce texte contenant une amnistie des putschistes a suscité l'indignation de la société civile. Et j'ai demandé à notre correspondant sur place, Issa Napon, si toute la garde présidentielle avait été maîtrisée.
Nous attendons que le chef d'état-major général des armées fasse donc un point public. Sinon, jusque-là, aucun de nos correspondants ne peut donner de réponse claire à ce niveau parce que justement, tous les journalistes, tous mes collègues, mes confrères des médias nationaux comme internationaux n'ont pas l'information. Eh bien, il est difficile à ce moment de le dire. Mais pour ce qui est sûr, le général Gilbert Dindiré ne contrôle plus la situation. Pourquoi nous disons cela? C'est que des sources concordantes font état donc de patrouilles de gendarmerie qui en ce moment donc quadrille Ouagadougou depuis la nuit. On n'a vu aucun soldat du RSP et au moment où justement on nous parle de plus d'une centaine de ces hommes-là qui se rendaient au camp de la Mijana pour se rendre. Et donc ce soir, c'est la gendarmerie qui fait la loi un peu dans la rue. Je pense que ce matin nous serons plus édifiés sur ce qui s'est passé au cours de la nuit.
C'était Issa Napon, correspondant de La Voix de l'Amérique à Ouagadougou. Sous la pression du reste des unités de l'armée qui s'est mise en branle pour contrer le régiment de sécurité présidentiel à Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré, qui a pris le pouvoir mercredi dernier, a fait son mea culpa hier dans un communiqué disant déplorer les pertes en vie humaine, accepter la libération d'Isaac Sida, et il a présenté ses excuses à la nation et à la communauté internationale. Idriss Fall a joint Gilbert Diendéré hier, après ses consultations avec Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien président et médiateur dans la crise.
Nous avons discuté de la situation présente et nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix éviter au Burkina Faso de tomber dans une guerre civile. Et pour cela, nous avons réitéré nos engagements à respecter scrupuleusement les décisions qui seront prises par la CEDEAO.
Est-ce parce qu'il y a une partie de l'armée qui est aux portes de Ouagadougou ou bien?
Oui, il y a quelques unités de l'intérieur du pays qui ont commencé à faire des mouvements sur Ouagadougou. Donc nous pensons qu'il faut éviter cette confrontation possible. Et nous avons entamé quelques discussions avec les responsables de ces unités-là pour éviter tout bain de sang inutile.
Et donc vous êtes tombé d'accord pour faire quoi? Vous abdiquez ou bien?
Nous sommes en train de discuter. Nous pensons pouvoir trouver une solution heureuse.
La solution heureuse serait de remettre entièrement le pouvoir à Michel Kafando?
Mais c'est ce que nous avions déjà, cela était déjà prévu dans l'accord que nous avons signé. Il va être discuté demain au sommet de la CEDEAO. Donc nous avions, depuis les discussions passées, exprimé notre volonté de respecter ces engagements-là.
Et est-ce que vous allez vous rendre comme le demandent ceux qui font le siège de Ouagadougou?
Nous sommes en train de parler avec eux. Nous allons voir quelle est la solution, quelle est la meilleure des solutions pour éviter le bain de sang.
Donc vous allez vous rendre armé et bagages sans résistance?
Nous allons discuter d'abord, nous allons discuter.
Donc vous attendez aussi la suite de la réunion des chefs d'État demain au Nigeria, non?
Voilà, nous attendions cette, puisque la réunion a lieu demain, nous avons fait la proposition. Hier, nous nous sommes entendus pour un pré-accord et ce pré-accord devait être présenté à la réunion demain à la CEDEAO. Et nous étions en tout cas en phase avec ce que nous avons décidé depuis hier.
Mais la société civile est contre cet accord et dénonce vigoureusement en disant même qu'on ne devrait pas vous amnistier.
Cela sera, devait faire partie des discussions, des débats. Chacun a ses positions et chacun a sa façon de voir les choses. Et donc nous attendions tout simplement cette rencontre de demain.
Et donc pour le moment, vous pensez qu'on trouvera une issue pour éviter vraiment la confrontation?
Je suis très optimiste. Je pense que nous sommes un pays de dialogue et nous allons trouver une solution au profit et au bénéfice du peuple burkinabé.
C'était le général Gilbert Diendéré, joint hier à Ouagadougou. Quoique discrète et plutôt souterraine par mesure de précaution, la résistance civile au coup d'État de mercredi dernier a bel et bien existé et agi. La société civile s'est en effet organisée pour ne pas céder aux putschistes. Et l'armée a répondu à cette attente de la population hier en désarmant la majeure partie du régiment de sécurité présidentielle à Ouagadougou. Pour marquer la résistance, les centrales syndicales de la fonction publique ont donné le mot d'ordre de grève illimitée dès jeudi dernier. Sayouba Sawadogo, instituteur à Léo, dans le sud du pays, a observé le mot d'ordre par conviction.
Nous avons reçu des messages de nos responsables au niveau des centrales syndicales pour organiser la résistance. C'est-à-dire d'abord arrêter le travail, une grève illimitée. Et dès le matin, nous nous sommes retrouvés au piquet de grève dans la ville de Léo. Nous avons marché dans les artères de la ville. Nous avons protesté contre le coup d'État, puisqu'au départ, c'était une séquestration du Premier ministre et du Président. Mais nous avons eu la confirmation pendant que nous marchions que c'était un coup d'État du général Gilbert Dengueré, ce que nous n'avons pas accepté. Et jusqu'à ce jour, nous sommes dans la résistance.
Est-ce qu'il y a d'autres villes qui s'organisent de la même manière que vous? Est-ce que c'est un mouvement national?
C'est un mouvement national. Tout le pays est embrasé actuellement. Tout le pays. Je peux vous dire que même il y a des petits villages où les gens ont mis des barricades pour empêcher même peut-être des véhicules de passer. Je crois que tout le pays est concerné par cette forfaiture-là. Puisque nous étions à quelques jours des élections, à un mois, puisqu'on avait précédemment prévu les élections le 11 octobre. Donc la population n'a pas accepté que ce général Pouchi vienne mettre encore en retard notre pays. Nous avons souffert pendant 27 ans et nous ne pouvons pas accepter encore qu'un militaire vienne au pouvoir. Et surtout que c'est un proche du président Blaise Compaoré, nous n'avons pas accepté cela. Et jusque dans les tout petits villages du Burkina, cela se ressent.
Alors est-ce que vous pensez que votre action, l'action de la population, a pu avoir une influence justement sur l'armée qui est descendue sur Ouagadougou?
Ça a eu une très grande influence parce qu'à Bobo, partout là où il y a des casernes, c'est la population civile qui est partie exhorter ces militaires-là à sortir pour défendre le peuple. Et là où il y avait des casernes, vraiment la population, nous sommes sortis pour dire aux militaires, quand même s'ils étaient vraiment des Burkinabés, d'essayer d'agir. Et je crois que notre appel a été entendu, puisque le général a appelé quand même les forces de l'ordre à converger vers Ouagadougou pour désarmer le RSP.
Comment voyez-vous la suite de ce développement?
Nous sommes très confiants, puisque vous l'avez suivi. La proposition de sortie de crise qui a été proposée par les médiateurs de la CDAO, je crois qu'aucune intelligence intellectuelle ne peut accepter cette proposition-là. C'est une insulte à l'encontre du peuple burkinabé. Comment est-ce que des gens qui sont sortis tuer des gens et demander une amnistie pour ces gens-là? Des gens qui, pendant 27 ans, ont pillé le peuple et qu'on demande de les inclure aux prochaines élections. Je crois que c'est une force qui était en train de se préparer. Même si nous acceptons ces derniers-là aux élections, ça veut dire que le RSE pouvait sortir et confisquer la victoire pour ces derniers-là. Donc voilà pourquoi nous avons accepté. C'est nous, le peuple, qui avons demandé au CNT d'exclure ces bandits politiques-là de la scène politique. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'une partie de l'armée, 1300 personnes, viennent exiger que ceux-là soient encore candidats. Et nous sommes très confiants de la suite, puisque nous pensons que le pouvoir est désormais au peuple. Nous allons tout faire pour que vraiment ces bandits-là disparaissent de la scène politique.
C'était Sayouba Sawadogo, un habitant de Léo au Burkina Faso. Le Burkina Faso où Issac Zida a été libéré selon son directeur de cabinet Job Ouédraogo. Il y aura aujourd'hui un sommet extraordinaire de la CDAO à Abuja, donc pour discuter de la crise. L'armée burkinabé a désarmé les putschistes du RSP. Les hauts gradés ont discuté du sort du général Diendéré cette nuit au palais présidentiel. Des colonnes de l'armée régulière sont arrivées hier en début de soirée aux portes de la capitale. Quelques heures avant, le haut commandement militaire avait prévenu que des unités de province convergeaient vers Ouagadougou. Dans son message hier, le chef d'état-major général des armées, Pingrenoma Zagré, a invité les membres du RSP à déposer les armes et à se mettre sous ses ordres. Souhaitant éviter toute confrontation avec les auteurs du putsch, le général Zagré a ordonné à tout chef d'état-major de prendre toutes les dispositions pour éviter tout affrontement et réserver un bon accueil aux frères d'armes du RSP sans aucune distinction selon ses termes. Sitôt dit, sitôt fait hier, l'armée a ainsi repris le contrôle de Ouagadougou pour désarmer les membres du RSP. Ce développement intervient alors qu'un projet de sortie de crise avait été présenté dimanche par la médiation ouest-africaine. Il devait être examiné lors du sommet extraordinaire de la CDAO ce mardi. Et voilà, dans un instant, le reste de l'actualité dans le monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au moins 17 personnes ont été blessées dans le nord de la Guinée ce week-end dans des heurts entre partisans de candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Ce sont les premiers incidents signalés depuis le début de la campagne électorale le 10 septembre. À Koundara, situé à 40 km de la frontière sénégalaise, des militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée et de Sélou Dalène Diallo et ceux du président Alpha Condé se sont affrontés à coups de pierre et de bâtons, faisant au moins 17 blessés. La tension était perceptible depuis samedi lorsque les militants de l'opposition ont annoncé un carnaval à travers la ville, ce que ne voulaient pas entendre les partisans du pouvoir, a expliqué un responsable de la police locale qui a voulu garder l'anonymat. Des biens publics ont été saccagés ainsi que des boutiques appartenant à des commerçants peuls réputés proches de l'opposition. Par ailleurs, à Kankan, dans l'est du pays favorable au président Condé, les partisans du pouvoir armés de pierres ont empêché la tenue d'un meeting de l'ex-premier ministre Sidya Touré.
En Somalie, 5 passants ont été tués et 13 autres blessés lundi dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. L'attentat s'est déroulé près de l'entrée de la Villa Somalia. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
D'après l'AFP, il n'y a eu aucun combat. Les assaillants n'ont pas tenté de pénétrer dans la Villa Somalia. Après l'explosion et l'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les islamistes Shebab, qui mènent régulièrement des attaques, notamment à Mogadiscio, utilisent souvent un véhicule piégé conduit par un kamikaze. Chassé depuis la mi-2011 de Mogadiscio, il contrôle toujours de larges zones rurales d'où il mène des opérations de guérilla contre les symboles du fragile gouvernement somalien ou contre la force militaire de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Les Chebabs ont récemment attaqué 2 bases de l'AMISOM, dont un camp abritant des soldats ougandais le 1er septembre et une base du contingent burundais à la fin du mois de juin.
En Syrie, au moins 18 civils ont été tués hier à Alep dans un nouveau bombardement de l'armée sur un quartier contrôlé par les rebelles. Des détails avec Lucie Lamont.
D'après Tami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un missile est tombé sur un quartier résidentiel de Shahr, dans l'est d'Alep, et l'armée a tiré des obus dans le même secteur. Il a ajouté qu'il y a au moins 18 morts et des dizaines de blessés, mais aussi de nombreuses personnes ensevelies sous les décombres. Selon un habitant, l'armée a visé un marché populaire très fréquenté. Depuis juillet 2012, Alep, l'ex-capitale économique de la Syrie, est ravagée par la guerre. L'est de la ville est contrôlé par le régime de Bachar al-Assad pendant que l'ouest est aux mains des insurgés. Selon de nombreuses ONG, le régime syrien bombarde régulièrement les zones tenues par les rebelles. L'armée attaque parfois avec des missiles qui ont fait des milliers de morts.
Les ministres de l'Intérieur européens se retrouvent à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de s'entendre sur la répartition des réfugiés, alors que Budapest a encore renforcé ses mesures pour contrer l'afflux de migrants. La réunion ministérielle sera suivie mercredi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. La Hongrie, qui a vu transiter 225 000 migrants depuis le début de l'année, a doté lundi la police et l'armée de nouveaux pouvoirs. Parmi ces mesures figure la possibilité pour l'armée d'employer des armes à balles en caoutchouc ou des fusils à filet contre les personnes qui tenteraient d'entrer illégalement dans le pays. Santiago de Cuba, 3e et dernière étape du voyage du pape François sur l'île communiste, est connu comme le berceau de la révolution menée par Fidel Castro, qu'il a surnommé la cité héroïque. Bagassikoura.
Santiago, deuxième ville la plus peuplée de Cuba, avait déjà reçu la visite de Jean-Paul II en 1998 et Benoît XVI en 2012. Le pape François doit rencontrer aujourd'hui des familles dans la cathédrale avant de bénir la ville qui avait beaucoup souffert du passage de l'ouragan Sandy en 2012. Il va aussi célébrer une messe dans le sanctuaire voisin de la Vierge de la Charité del Cobre, très vénérée des Cubains. La ville est un lieu de pèlerinage abritant une basilique reconnue par le Vatican. Elle tient son nom d'une image de la Vierge sur un support en bois découverte dans la baie de Nippes en 1612 ou 1613. Le pape quittera Santiago en milieu de journée pour venir à Washington, première étape de son voyage aux États-Unis.
Et après son séjour à Cuba, le pape François doit arriver aujourd'hui à Washington. Il se rendra ensuite à New York pour parler à la tribune de l'ONU et terminera son séjour par le synode sur la famille à Philadelphie. Écoutez Thomas Rosica, un porte-parole du Vatican.
Quand le Saint-Père atterrit ici à Washington, il va entrer dans ce pays depuis Cuba. Et je crois que c'est très très important qu'il vienne de Cuba. Après presque 50 ans de difficultés, de moments très tristes, de divisions, le pape, c'est lui-même qui a beaucoup aidé à dégeler ce qui se passe maintenant entre Cuba et les États-Unis. C'est un nouveau moment, non seulement pour les deux pays, mais pour le futur. Ces jours-ci que le pape est à Cuba, il demande une profonde réflexion au peuple pour que cette nouvelle liberté, peu à peu que ça arrive, soit vraiment une ouverture vers les autres. Il demande vraiment un esprit de s'entraider à Cuba actuellement pour que les gens ne se vantent pas de tout ce qui va arriver, mais ils deviennent aussi des acteurs dans ce nouveau moment. Et quand il entre aux États-Unis, depuis cette île qui était très éloignée de nous, je crois que c'est très, très beau comme acte, comme symbole aussi. Et aux États-Unis, c'est une visite absolument magnifique. La visite au pays des États-Unis, il y aura des aspects très américains qui sont des réflexions du peuple en Amérique du Nord et aux États-Unis. Mais aussi, il y a deux moments très importants internationaux qui vont se passer ici. D'abord, la visite aux Nations Unies à New York. Parce qu'il va parler non seulement à tous les ambassadeurs qui sont là, réunis pour l'Assemblée générale, mais je crois qu'il y a 80 chefs des nations qui sont réunis. Quelle plateforme pour le chef de notre Église. Et tout le monde demande qu'est-ce qu'il va parler, mais il suffit de regarder tous les problèmes du monde actuellement, la persécution des chrétiens, la pauvreté, et aussi il y a le grand problème des réfugiés. Et c'est le pape lui-même qui va adresser ces choses. Il va demander au chef des nations de prendre en main la situation. Et puis à Philadelphie, c'est le couronnement de toute cette visite, la rencontre mondiale des familles, internationale des familles. C'est un très beau moment. Moi, je ne peux que penser aux paroles de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, quand il a dit « Le futur de l'humanité passe à travers les familles ». Alors à Philadelphie, c'est une profonde réflexion sur le futur de l'humanité en traitant les questions et les défis pour le mariage, pour la famille aujourd'hui, pour la pauvreté.
C'était Thomas Rosica, porte-parole du synode sur la famille.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Gabon, les violences sexuelles sur mineurs se multiplient. Près de 3000 cas ont été enregistrés ces trois dernières années. Grâce à une ONG locale, plusieurs jeunes filles ont été secourues. Notre correspondant au Gabon, Jean Rovis Dabani, a rencontré des victimes et des parents de victimes. Dans son reportage, les identités ont été changées par souci de protection.
Victoire, une adolescente de 17 ans, a vécu un calvaire. Pendant 5 ans, elle a été violée par son beau-frère. Son témoignage a été diffusé à travers les médias pour montrer l'ampleur du phénomène. Dans cette vidéo, elle raconte son traumatisme.
J'ai été abusée sexuellement par mon beau-frère, le mari de ma grande sœur. Et quand cela s'est passé, quelques temps après, je n'ai pas pu en parler parce que je ne savais pas comment le dire et vers qui aller pour pouvoir en discuter. Parce que non seulement j'avais peur par rapport à certaines menaces qui m'avaient dit que je ne savais pas quoi dire et vers qui me tourner.
Nous n'en saurons pas plus. Contacté par la VUA, l'accusé, un homme de 49 ans, s'est refusé à tout commentaire et a préféré quitter clandestinement la ville pour une destination inconnue. Le cas des victoires a fait la une des médias et choqué l'opinion. Mais dans un pays où les sanctions à l'encontre des violeurs n'ont jusqu'ici contribué à renverser la tendance, les viols sont devenus monnaie courante. Marlise est inconsolable. Pendant 2 ans, sa nièce de 8 ans a été violée par son grand-père. Le violeur a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 500 000 francs CFA. Mais Marlise estime aujourd'hui que cette peine reste moins lourde.
L'enfant a été violé par son grand-père, c'est-à-dire le mari de sa grand-mère, qui aujourd'hui, après avoir déposé la plainte au tribunal, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, accompagné d'une amende de 500 000. Mais je vous avoue quand même que je n'ai pas été satisfait par le verdict. Parce que quand j'ai vu comment l'enfant a souffert, laissez-moi vous dire qu'elle n'arrive même pas à aborder un garçon si ce n'est pas son père, si ce n'est pas son frère. Mais un inconnu, elle n'arrive pas.
L'ONG de défense des droits humains, SOS Moana, a recueilli des centaines de témoignages sur les cas de viol. Selon elle, plus de 2500 jeunes filles ont été violées entre 2012 et 2015. Hortense Nam est sa présidente.
Il y a 64% de violences qui sortent de la famille, 25% à l'école et 11% dans la rue, ce qui est vraiment énorme. Quand on essaie d'analyser ces statistiques, ça veut dire que l'enfant se sent plus en sécurité dans la rue que dans sa propre famille et à l'école.
SOS Moana, qui a publié un rapport sur la question, a décidé de faire campagne sur les violences sexuelles à travers les médias pour encourager la population à faire condamner le violeur. Pour mieux sévir contre les auteurs de viol, le gouvernement a accepté de prêter main forte à la campagne que mène cette ONG. Les autorités ont décidé également de mettre sur pied des centres d'écoute pour lutter contre ces violences. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco présentée par Michel Joseph.
Un centre régional d'information et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme du groupe intergouvernemental en Afrique de l'Ouest a ouvert lundi ses portes à Abidjan au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre ivoirien. C'est une confiance renouvelée à la Côte d'Ivoire, s'est-il réjoui, disant que la lutte contre ces fléaux doit se faire de façon collective. Toujours à Abidjan, la Banque africaine de développement va augmenter son engagement pour accélérer les actions et résoudre le problème d'accès à l'électricité pour tous à travers le partenariat transformatif sur l'énergie pour l'Afrique, a déclaré jeudi à Abidjan Akinwumi Adesina, le nouveau président de la BAD, à l'issue d'une réunion consultative sur le thème « Vers un nouveau pacte de l'énergie pour l'Afrique ». Pour Akinwumi Adesina, il faut accélérer tous les efforts pour avoir l'électricité universelle en Afrique en 2025, car, a relevé le nouveau président de la BAD, l'Afrique a un manque criard d'électricité. Le leader mondial du diamant de Beers dit s'attendre à ce que 2015 soit une année plus que difficile pour le secteur. Pour citer son PDG Philippe Mélier, cette situation serait due au renforcement continu du dollar par rapport aux principales monnaies, couplé à un ralentissement de la croissance économique de la Chine. Le prix des diamants pourrait chuter en raison d'une offre trop abondante alors que la demande baisse. Les cours du pétrole ont terminé la séance en hausse lundi. Pourtant, les analystes s'accordent à penser que les signes d'une baisse de la production américaine justifient une reprise des prix. Le cours du baril de référence pour livraison en octobre a gagné 2 dollars à 46,68 dollars sur le NYMEX, effaçant presque ses pertes de vendredi.
Merci Michel pour la Minute Éco. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un rappel sur la crise au Burkina Faso où le Premier ministre Isaac Zida a été libéré selon son directeur de cabinet Job Ouédraogo. Il se tiendra aujourd'hui un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise. L'armée burkinabé a désarmé les putschistes du RSP. Les hauts gradés ont discuté du sort du général Diendéré cette nuit au palais présidentiel. Des colonnes de l'armée régulière sont arrivées hier en début de soirée aux portes de la capitale. Quelques heures avant, le haut commandement militaire avait prévenu que des unités de province convergeaient vers Ouagadougou. Dans son message hier, le chef d'état-major général des armées a invité les membres du RSP à déposer les armes et à se mettre sous ses ordres. Souhaitant éviter toute confrontation avec les auteurs du putsch, le général Zagré a ordonné à tout chef d'état-major de prendre toutes les dispositions pour éviter tout affrontement et réserver un bon accueil aux frères d'armes du RSP sans aucune distinction selon ses termes. Sitôt dit, sitôt fait, hier, l'armée a ainsi repris le contrôle de Ouagadougou pour désarmer les membres du RSP.
Ce développement intervient alors qu'un projet de sortie de crise avait été présenté dimanche par la médiation ouest-africaine. Il devait être examiné lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce mardi. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon mardi à toutes et à tous.